Bonjour et bienvenue dans mon atelier.
Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Dans ce deuxième épisode avec Pauline Loctin, sculptrice de papier, nous parlons de la définition de la créativité, de la place de la femme dans l'art et de l'importance de la collaboration avec les marques. Le conservatoire de musique pendant 20 ans a appris la rigueur et la patience à Pauline, qui lui ont donné les clés pour se lancer dans un univers rencontré dans un livre. Découvrez sa belle histoire qu'elle vit depuis Montréal. Belle écoute! Bonjour Pauline, et comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, c'est un leurre! Tu n'es pas dans ton atelier, nous ne sommes pas dans ton atelier, tu es à ma maison. Et encore une fois, ça me fait très bizarre. Mais bon, je suis contente de t'accueillir, parce qu'en effet, Pauline, tu ne vis pas... Alors, tu es française.
Oui, je suis française.
Mais tu ne vis pas en France. Tu es partie il y a bien longtemps maintenant.
Ouais, ça fait 16
ans. Tu nous as quittés.
Ouais, ouais.
Il y a quoi, tu m'as dit 20 ans, c'est ça ?
16 ans que je suis à Montréal. Ouais, quasi 20 ans en fait, mais 16 ans.
Voilà, donc 16 ans à Montréal, tu es de passage en France pour les fêtes.
Oui, c'est ça, oui, exactement.
Et j'ai eu la chance de pouvoir te capter entre deux voyages, puisque tu m'as dit que lundi tu partais à Londres.
Oui.
Tellement international. Voilà, le podcast va voyager avec toi, je l'espère.
Oui.
Donc Pauline, tu es sculptrice de papier. Pauline, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec ton art ?
Ben en fait, ça fait 8 ans que j'ai commencé à plier. Donc vraiment, la première feuille que j'ai prise, c'était il y a 8 ans. Parce que, donc à la base, moi, je suis musicienne, violoniste. Je travaillais dans l'industrie de la musique pendant quand même plusieurs années. Mais a fait qu'à un moment donné, j'ai bifurqué. Donc, je tiens à dire que je n'ai aucune formation, on va dire, universitaire ou d'école. J'ai vraiment tout appris par moi-même. Et il y a 8 ans, on m'a offert un livre sur le pliage de Paul Jackson, pour ceux qui vont connaître, qui s'appelle « Folding Techniques for Designers ». Tout est parti de là. Et après, ça n'a juste jamais arrêté. Et j'ai juste continué à apprendre, continué à tester des choses. Et au fur et à mesure, c'est venu que j'ai commencé à faire des murales, j'ai commencé à faire des appliqués muraux, des lampes. Et jusqu'à aujourd'hui, à faire vraiment mes œuvres, etc. Mais ça a été un long cheminement d'apprentissage par moi-même.
Et juste question, ce livre « Folding Techniques for Designers », ça raconte quoi sur le pliage ?
Alors, c'est un livre. Paul Jackson, en fait, il a écrit une série de livres qui sont axés sur donc toutes les techniques de papier, en passant par le pop-up, par les outils de marketing que tu peux faire en papier. Donc, c'est vraiment axé design et comment tu utilises le pli dans le design. Mais le premier livre, c'est vraiment un apprentissage vraiment du pliage. Donc, il te passe à travers tous les types de plis, etc. Donc, c'est pas un livre d'origami, c'est vraiment un livre de pliage technique. Et c'est aussi un livre qui est beaucoup, je pense, autant les designers que les architectes connaissent vraiment beaucoup ce livre, parce que tout compte fait, c'est des techniques de mathématiques, géométrie, c'est plein de petits exercices. Il te passe à travers la matière comme ça, entre savoir diviser une feuille en parties égales, ensuite c'est des plis en V, donc il passe à travers tout ça. Et à travers sa série au complet, t'as même un livre, c'est juste sur les boîtes à plier, mais c'est au niveau, vraiment, c'est un truc pour les designers. Donc c'est ça la différence avec peut-être un livre d'origami, on va dire, plus traditionnel.
Et qu'est-ce qui t'a emmené à Montréal ?
À la base, c'est la musique. Donc, je finissais une maîtrise en musicologie sur le rhythm and blues. Et je suis partie là-bas parce qu'il y avait un prof, en fait, que je voulais avoir. Et il était à Montréal, en fait. Et j'ai fini ma maîtrise. Et en fait, j'ai trouvé un emploi dans une maison de disques, ce qui était spécialisé en jazz. Et moi, j'étais déjà là-dedans, fait que pour moi, c'était l'emploi de rêve, en fait, de travailler dans une maison de disques. Et je suis restée à Montréal, en fait, pour ça, à la base. De fil en aiguille, c'est sûr que j'ai eu d'autres emplois. Je travaillais pour des orchestres aussi. Ensuite, ça a vraiment réduit, enfin, pas réduit, mais disons que je suis restée vraiment marketing, communication, etc. Parce que quand tu travailles dans un... Moi, c'est sûr que j'aurais voulu être que en studio avec les musiciens, mais en fait, la réalité est que quand t'es une petite structure, bah, tu fais un peu tout. J'avais commencé vraiment à être plus en marketing, communication et tout ce qui était site web et tout ça. Et je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais vraiment, me demande pas, ça a juste bifurqué vraiment très très loin de ce que je faisais à la base. Peut-être au bout de plusieurs années, en fait. Alors que moi, je me suis dit, mais en fait, j'étais tout le temps devant un ordinateur alors que j'avais passé 20 ans de conservatoire sur un violon. Disons que la rupture, elle a été un peu dure parce que je savais pas quoi faire de moi-même. En gros, là, je faisais ça, mais en fait, je pense que j'avais vraiment un besoin de faire des choses avec mes mains malgré tout. Et je suis passée par différents trucs. J'ai commencé à apprendre la couture. Je pense que je suis passée par le tricot, enfin des trucs, jusqu'au jour où on m'a offert ce bouquin et je suis tombée sur le papier. Et que après ça, ça a été que papier. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été que papier. Mais c'est fou que toutes les choses que j'ai fait avant me servent maintenant de toute façon. C'est-à-dire que le parallèle, il y a beaucoup de gens qui voient énormément de musique dans mon art. Peut-être, moi, je me dis, bon, c'est sûr que c'est là, parce que moi, j'écoute de la musique non-stop dans mon atelier. Donc, je me dis, c'est sûr que c'est là. Et aussi, je pense que c'est plus après au niveau de la discipline. C'est-à-dire que j'ai quand même fait 20 ans de violon. Faire du violon, c'est pas facile. Faut avoir une sacrée discipline pour se rendre jusque, parce que je me suis quand même rendue jusque dans les derniers cycles des conservatoires. Alors, je pense que ça, ça a été important dans mon cursus, en fait, que maintenant, ce que je fais, je le dois beaucoup à la discipline qu'on m'a donnée quand je faisais de la musique. Et ça, par contre, je suis capable de faire le parallèle très, très rapidement, en fait. Ça, c'est clair. Apprendre tout seul, avoir la discipline justement de passer à travers les erreurs et de continuer à apprendre et d'évoluer. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, c'est, je donne des ateliers à Montréal et des fois, les gens, ils se découragent très rapidement, en fait, tu vois, quand ils apprennent quelque chose de nouveau. Mais c'est ce que je leur dis, ça prend des années, en fait. Tu sais, ils parlent du 10 000 heures tout le temps. 10 000 heures sur un truc, ça prend 3 ans déjà de base. 3 ans où tu le fais tous les jours, 8 heures par jour. Donc, à un moment donné, ben, en fait, moi, ça fait 8 ans. Calcul, j'en sais, ça prend autant de temps que ça de savoir maîtriser quelque chose.
Et justement, je voulais te demander, parce que tu m'as déjà dit que c'est la nature qui t'inspirait beaucoup, est-ce que justement tu t'inspires de la musique ou...
Je pense que c'est inconscient, mais je pense que oui. C'est-à-dire que comme j'aime le mouvement, pour moi la musique c'est du mouvement aussi, c'est du rythme. Quand je parlais de pli droit, etc., c'est vrai que pour moi il y a une rythmique là-dedans. Peut-être que c'est pour ça que ça me fascine aussi, c'est que je vois vraiment le lien entre les deux. Mais je pense aussi que c'est ce flow-là qu'il y a dans la musique aussi. Je pense que je l'ai retranscrit dans mes œuvres en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi, dernièrement je me suis fait la réflexion, regardant une partition de musique c'est énormément de traits et de choses arrondies, donc les liaisons, etc. Et en rigolant, j'ai dit « Ouais, c'est drôle, je pense que ça, ça a dû m'influencer parce que mon travail en ce moment, c'est de mélanger des plis droits avec des plis courbés. » Et je me dis « Mais c'est fou parce que c'est une partition de musique, en fait, de base, c'est ça. »
Bah, c'est clair, j'allais dire, en fait, avec tes plis, tu crées les lignes de la partition.
Mais je pense qu'il doit y avoir inconsciemment, en fait, je pense que quand t'as vu que des partitions depuis que t'es petite, ça reste dans ton inconscient, là. Alors je me dis « Ça doit en faire partie, en fait. »
Bah, c'est sans doute vrai. Et j'avais une autre question aussi. Pourquoi un jour il y a une personne qui t'a offert ce bouquin sur le pliage ? Quand elle l'a vu, qu'est-ce qu'elle s'est dit ?
Ça, c'est quand même très drôle, c'est qu'il l'avait commandé pour lui. Amazon s'est trompé, ils en ont envoyé 2. Et vu qu'il me voyait, je pense, faire beaucoup de choses manuelles, il me l'a juste offert, il m'a dit « Je suis sûre que ça va te plaire. » Mais il me l'a juste donné comme ça. Donc c'est une erreur Amazon. Je trouve ça quand même très drôle. Mais après, je me dis, il n'y a jamais de hasard dans la vie, tu vois, je pense que...
Amazon savait.
Ouais, c'était juste dû pour arriver.
C'est dingue ! C'est vraiment un hasard.
Ouais, mais après, tu vois, je me dis, mais on parle de hasard. Moi, je pense que ça n'a jamais été un hasard. Au jour d'aujourd'hui, je sais que c'était pas un hasard. Fallait vraiment que je tombe sur ce livre-là, sinon pour que ça spark, c'était genre le début de ce que j'allais faire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, j'étais en musique et j'ai jamais pensé à faire de l'art visuel, mais jamais. Moi, j'étais vraiment conservatoire. C'était ça. Je dessinais un peu. Et comme je te dis, après, on tombe jamais loin de l'arbre. C'est que ma mère, elle peint superbement bien, elle sculpte, elle fait plein de trucs, elle est hyper manuelle, ma mère. Fait que je pense qu'elle nous l'a inculqué quand on était petits. Après, moi, c'est pas que j'ai oublié, elle a déjà essayé de me faire peindre. J'ai détesté ça. Et en plus, maintenant, c'est moi qui l'appelle pour dire « Ouais, maman, là, je veux peindre ça, comment on fait ?» Parce que moi, j'ai aucune formation. Tout ce que je fais, je le fais vraiment à l'instinct. Alors là, maintenant, j'apprends. Parce que je me dis, bon, là, il faudrait peut-être que j'ai un peu de technique quand même pour, voilà. Et du coup, c'est moi, maintenant qu'il l'appelle pour lui demander des trucs. Que c'est quand même...
Donc, c'est ta prof à distance.
Ouais, je te jure que oui.
Trop bien. Et avant d'enregistrer, tu m'as raconté ta petite anecdote de qu'est-ce qui... Parce qu'il y a eu le bouquin, mais qu'est-ce qui a fait que, un, t'as fait tes premiers pliages, et surtout, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée vraiment ?
Ah oui, en fait... Bon, c'est sûr que des fois, on me demandait des trucs à droite, à gauche, mais juste des amis, jusqu'au jour où j'ai une amie qui s'est mariée et elle m'a demandé de faire une murale qui faisait comme 3 mètres de haut. Pour vrai, c'était vraiment gros, là. Genre, puis moi, je lui ai dit oui parce que voilà, elle m'a fait confiance en plus. Fait qu'il faut que j'assure, là, quand même. C'est comme son mariage, je peux pas tuer la déco, genre. Fait que j'ai fait cette murale-là, donc en papier noir. Et du moment que je l'ai posté sur les réseaux sociaux, donc je crois qu'à l'époque, c'était Facebook et Instagram, et ben de là, j'ai eu mon premier contrat comme ça, en fait. Et c'est arrivé très vite. Donc, mon premier contrat, c'était pour les hôtels Four Seasons. Et c'était un lancement qu'ils faisaient au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Fait que mon premier contrat, ça a été ça, vraiment payé et tout ça. C'est de faire une murale dans ce contexte-là. Donc, même maintenant, j'y réfléchis, je me dis, c'est fou. C'est quand même, c'est des gros clients, en fait. Et après, ça a déboulé. Puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai dit oui, mais je savais pas ce que j'allais faire, en fait, parce que pour moi, je ne savais pas ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais appris 2-3 pliages dans un livre. J'avais commencé à m'amuser, moi, pour mon besoin personnel, mais j'avais pas réfléchi à plus que ça, en fait. Donc, j'ai quand même eu l'audace de dire oui en me disant, bon, c'est une opportunité, allons-y. Mais je vous jure, et je le dis aux gens, je ne savais pas ce que je faisais.
Mais tu avais une communauté quand tu as posté ?
Ben, en fait, c'est sûr que, bon, moi, j'avais déjà la communauté, on va dire, de la musique. J'avais fait du bénévolat à droite à gauche à Montréal, que ce soit dans des festivals d'art. J'avais travaillé pour un festival d'art à un moment donné, mais en tant que bénévole. Donc, je connaissais quand même pas mal d'artistes, tu vois, mais on va dire de la communauté artistique de Montréal qui était un peu mélangée entre les artistes visuels et les artistes de musique. Mais honnêtement, je pense que ça a tellement marqué les gens, le fait que je fasse ça. En fait, je savais pas de quoi je faisais ça, en fait. La plupart des gens sont comme, qu'est-ce qui se passe, genre, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que ça a vraiment juste marqué les gens et qu'après, ça a déboulé comme ça. Mais honnêtement, genre, tu sais, il y a pas longtemps, parce que moi, j'ai des cahiers, en fait, des sketchbooks, tu vois, depuis des années. J'ai commencé à juste gribouiller, genre un peu voir, tu sais, quand je faisais des installations, tu sais, je les dessine toujours d'avance. Et je me rends compte, au bout de 8 ans de cahier, qu'il y a des choses qui étaient là il y a 8 ans. C'est-à-dire que tu les définis, tu les masterises, on va dire, mais en fait, il y a vraiment des choses qui sont à toi et qui sont là depuis le début. Et je pense que ça, c'est aussi un apprentissage que je fais entre la technique et ce que tu essaies d'exprimer. C'est que des fois, ça te prend plusieurs années d'améliorer ta technique avant de pouvoir vraiment bien t'exprimer. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis arrivée au sweet spot, on va dire. Que là, ma technique, elle est assez bonne pour que je puisse vraiment me libérer au niveau de l'art. Et tu vois, ça, je pense que j'aurais pas eu la musique. Peut-être que je me serais découragée. Mais je sais que, par exemple, en musique, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives quand même à un certain niveau de technique pour que tu arrives à vraiment bien t'exprimer. Mais je ne dis pas que la technique fait tout. Mais que ça te prend quand même pour pouvoir te libérer, d'être, on va dire, ouais, libre de tes mouvements, là, pour pouvoir bien t'exprimer. Et j'ai l'impression que là, j'ai quand même atteint un niveau de technique qui me permet de pouvoir faire ce que je veux. Après, je ne suis pas experte. Et ça, on en a parlé, mais je mets vraiment, je suis plus humble là-dessus parce que moi, c'est mon but, ce n'est pas forcément d'avoir une technique parfaite. Parce que je me considère pas comme artisan. C'est-à-dire que si tu viens me voir, moi, tu viens me voir en tant qu'artiste. C'est-à-dire si tu veux faire un projet artistique avec moi, parce que moi, je me considère pas comme artisane, en fait. J'ai appris le plissage l'année dernière dans un stage. Mais pour moi, c'était juste pour ouvrir mon champ des possibles au niveau de comment j'allais m'exprimer. Il y avait des choses que je voyais que j'avais des limitations avec le papier à faire. Moi, j'adore la transparence, j'adore plein de choses. Et je me rendais compte que je n'y arriverais pas par le papier. Donc là, d'être passé par le tissu, je me rends compte que là, ça m'ouvre. C'est comme avoir une nouvelle boîte de crayons, tu vois. Donc là, je me dis, ah, OK, là, je peux ouvrir sur autre chose. Donc pour l'instant, ça fait 1 an que j'ai appris ça. Donc, c'est encore dans ma tête en train de cogiter exactement ce que je vais faire avec et tout ça. Mais jamais, je veux dire que je suis plisseur ou parce que c'est un métier de dingue et de précision incroyable. Et en fait, j'ai trop de respect pour eux pour me dire que moi, je fais ça. C'est juste que pour moi, c'est comme une autre boîte de crayons. Et c'est vraiment comme ça que je le vois.
Bah non, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, ce que tu me racontais, c'est ton rapport avec, justement, les personnes qui te suivent en stage. Tu me racontais que quand tu rentrais dans un atelier et que tu leur parlais de tes idées, ces personnes te disaient « Ah, bah tu peux utiliser telle technique ou telle technique, ou je pense aussi à ça parce qu'on a déjà vu ça. » Et c'est vrai que le statut de l'artisan, c'est sans doute avoir vu tellement de choses et tellement de techniques qu'il est capable de répondre à... Enfin, c'est exactement ce que tu expliques, c'est que ça t'a mis 8 à pouvoir vraiment réaliser tes désirs sans avoir la problématique de « Bah non, en fait, j'ai pas la technique, je ne sais pas le faire. » Donc je ne peux que dire mais oui. Et ce qui me donne envie d'enchaîner sur un autre sujet qu'on a déjà abordé en off mais que je pense est hyper intéressant, c'est justement ce rapport entre l'artiste et l'artisan. Et toi qui as l'expérience de l'Amérique du Nord et de la Grande-Bretagne, c'est que tu me racontais que c'était pas du tout le même rapport artiste-artisan et, ouais, et le rapport à la création.
C'est sûr qu'en Amérique du Nord, je pense qu'ils ont pas cette culture-là de l'artisanat, en fait, comme on l'a en France. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, c'est vrai que le lien entre artisan et artiste, je trouve que dans le milieu anglophone, il est un petit peu plus... t'as le droit de faire les deux. En fait, c'est juste ça. C'est de, avant, alors un droit, j'en sais rien, mais en fait, juste, tu te permets de pouvoir faire les deux et que c'est pas grave, en fait. Tu peux être deux choses, hein. Tu peux être mille choses si t'as envie. C'est ne pas mettre les gens forcément dans des boîtes et les exclure de certains milieux. C'est-à-dire que si toi, t'as envie, tu maîtrises un truc, t'as maîtrisé ça pendant des années, puis d'un coup, tu dis, mais en fait, moi, j'ai envie de m'exprimer aussi, t'as envie de sortir, je sais pas, une série et quelque chose, faire une expo. Mais pourquoi t'aurais pas le droit de le faire, en fait? Parce que t'es un humain, t'as ton expression. Pour moi, tout le monde peut être artiste, en fait, tant que t'as une histoire à raconter. Parce que c'est ça, moi, peut-être, c'est ma définition de la différence entre les deux. C'est que d'un bord, tu vas avoir des artisans qui maîtrisent une technique, pas qu'ils ont rien à dire, mais c'est juste que le jour où ils auront quelque chose à dire, peut-être qu'ils pourront transvaser vers le milieu de l'art. Mais pour moi, c'est pas t'es l'un ou l'autre, tu peux être les deux. Et je pense qu'en Amérique du Nord, et je le vois à Londres aussi, c'est que les gens se permettent de pouvoir être les deux, en fait, tout simplement. Puis qu'il n'y a pas de, je vais pas dire, parler de honte, mais en fait, c'est juste comme ça. C'est la nature humaine, en fait. Et moi, tu sais quoi, je le vois même en musique. C'est-à-dire qu'en musique, il y a des gens, c'est des grands techniciens, donc ils vont jouer dans des orchestres, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une carrière genre personnelle. C'est des techniciens, donc on les demande dans les orchestres parce qu'ils savent jouer une partition puis qu'ils savent tenir la route, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pourront avoir une carrière solo. Donc moi, maintenant, je le vois aussi de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, le conservatoire, et je ne vais pas me mettre personne à dos là, mais pour moi, le conservatoire, ça forme des musiciens normalement pour jouer dans des orchestres. Ça ne forme pas forcément des gens qui vont être solo et qui vont avoir une carrière vraiment d'interprète. Et ça, je l'ai vu en arrivant en Amérique du Nord. C'est-à-dire quand je suis allée à l'université en musique, ils formaient des gens à être interprètes. Ce que moi, je n'ai pas forcément vécu quand j'étais au conservatoire où on te demande de savoir jouer exactement comme tout le monde pour pouvoir rentrer dans les orchestres. Mais en musique, je pense que ça marche de la même façon. Et des gens, ils veulent absolument s'exprimer. Et justement, c'est à ce moment-là, peut-être qu'être conservateur, ça va être compliqué pour eux. Parce que là, ils vont vouloir faire des choses qui sont hors cadre. Et peut-être que c'est ce que je vois là, entre l'artisanat et l'art. Mais tout compte fait, la technique est hyper importante de toute façon. Donc, que tu l'apprennes pour faire de l'art ou par exemple, travailler pour un client. Puis là, dans le fond, travailler avec ce client-là. Mais pour moi, quand je te parle du plissage... je travaille avec un atelier à Londres, le savoir qu'ils ont, ils sont autant créatifs que moi. C'est-à-dire que moi, même si j'apporte une idée, je dis « Ok, moi, j'aimerais bien faire ça », ils vont m'apporter des solutions créatives qui sont incroyables parce qu'ils ont un savoir et avec tout ce qu'ils ont vu passer. Mais tout compte fait, ces gens-là, du jour au lendemain, ils veulent être artistes, ils vont être les meilleurs, tu vois, parce que déjà, ils ont au niveau technique, ils sont là. Donc, si en plus, ils ont quelque chose à raconter, bah, ils pourraient faire le switch, en fait, et d'aller vers et de décider de faire une exposition, par exemple.
C'est une très bonne transition vers une des questions que j'ai, toi qui as côtoyé énormément de créativités différentes. Est-ce que tu crois qu'on est tous créatifs ?
Oui, parce que les enfants sont créatifs du début. Nous, on l'oublie quand on est adulte. Et moi, je m'en suis rendu compte à force de faire des ateliers. Parce que j'aime beaucoup d'ateliers et tout ça, autant aux enfants qu'aux adultes. Et en fait, les enfants, c'est les meilleurs artistes, en fait. Ils sont même meilleurs que nous. Parce qu'eux, ils sont tellement connectés. Tu leur donnes un papier, ils vont te faire des trucs que même toi, tu n'avais pas pensé à faire ça. Tu peux leur donner un exercice à faire. Les enfants, ils ne feront jamais l'exercice que tu leur as demandé. Genre, ils vont partir de ça et après, ils vont partir. Mais si tu les laisses faire, ils vont partir complètement ailleurs. Et en fait, non, tout le monde est créatif. Ça, ça fait partie de l'humain. Genre, créer des choses, ça fait partie de l'humain. Mais après, c'est malheureusement, je pense que l'école fait du mal. La vie en général va faire du mal et du coup, il y a beaucoup de gens qui oublient en grandissant. Moi, je pense que je suis juste une enfant qui s'assume, qui n'a jamais arrêté d'être une enfant, en fait. Mais,
Oui, et puis tu as grandi dans la bonne famille où justement, il y avait la créativité et peut-être que ouais. Ta mère t'a aidé à nourrir cette créativité.
Ouais. Puis tu sais, même aujourd'hui, des fois, il y a des adultes, quand je les ai dans les ateliers, on a ces discussions-là avec eux parce que ça leur fait du bien, ils se rendent compte que tu sais, ils n'ont pas ça dans leur vie. Et en fait, c'est parce qu'ils s'autorisent pas à le faire. Et aussi, il y a le truc de vouloir faire les choses parfaitement. Ou que tu commences quelque chose et tu ne te donnes pas l'opportunité de pouvoir apprendre. Et ça, c'est une discussion que j'ai tout le temps avec eux. Je dis, mais tu n'as pas appris à marcher du jour au lendemain. Hein. Ça a pris des années. Tu n'as pas appris à écrire du jour au lendemain. Donc, la pression que les gens se donnent à devoir être parfait, genre tout de suite, Moi, je leur dis à chaque fois, je fais wow, c'est la première fois que tu me lis. Genre, laisse-toi une chance. Genre, parce que sinon, c'est sûr que tu peux rien apprendre, en fait. Et aussi, comme je disais, ça prend des années de toute façon à maîtriser quelque chose. Fait qu'il faut arrêter avec le voilà, tu dois être bon du jour au lendemain. C'est est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que t'es bien là en ce moment? Parce que pour moi aussi, faire tout ça là, c'est un état méditatif incroyable. C'est-à-dire que quand t'es bien à ce que tu fais, tu pourrais le faire pendant des heures, en fait. Peu importe. T'es dans ton truc, tu fais tes trucs. Et si ça te plaît, ben, tu dois passer par le moment où tu vas être mauvais. Genre, faut vraiment faire la paix avec ça. Et moi, je leur dis, au début, j'étais nulle. Hein. J'aurais dû garder, en fait, maintenant, je regrette de ne pas avoir gardé mon premier pliage parce qu'il était nul.
Tu l'as pas regardé en relique.
Non, mais j'ai retrouvé des photos, par contre. J'ai retrouvé des photos. Mais moi, je pense que j'aimerais faire un post de ça, de l'évolution, parce que je suis retombée sur des trucs que je faisais il y a plusieurs années. Et même moi, je regardais des trucs, je me disais, mais j'étais nulle.
Pas droit.
Donc, ouais. Mais il faut avoir la compassion pour ça, parce que
en fait, ça fait partie de l'évolution aussi.
Bien sûr.
Et que c'est normal, en fait. Tu peux pas te comparer à moi 8 ans après et regarder les trucs que je fais et me dire, oui, mais t'as vu toi. Je dis, oui, mais t'as vu toi. Moi, ça fait 8 ans que je le fais. Donc, à un moment donné.
C'est hyper vexant aussi. Si en une séance de 2 heures, t'arrives à faire la même chose que moi en 8 ans.
Ouais, non, mais c'est ça. Et après, c'est juste de. Je pense que la créativité, on doit l'avoir dans notre quotidien. Parce que c'est juste, ça fait du bien, en fait. Et t'es pas obligé d'en faire quelque chose. Moi, à la base, quand j'ai commencé, je m'étais pas dit que j'allais en faire une carrière. Et ça, je pense que les gens aussi, il faut qu'ils arrêtent avec ça. T'as le droit d'avoir des hobbies et t'as le droit que ce soit pas ton métier. Genre, c'est juste ton hobby et c'est correct aussi de pas faire de l'argent avec.
Pour pousser un peu plus la réflexion, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme définition à la créativité ? Ouais, hein, c'est dur parce que... Enfin, moi, je me suis longtemps posé la question, parce qu'en côtoyant des gens hyper créatifs, en fait, dans l'artisanat d'art, tu en vois, et à chaque fois, j'étais là, waouh, c'est trop beau et tout. Et il y a un moment où je me suis dit, je suis triste de pas être créative. Et en fait, je me suis dit, mais bien sûr que si. Je le suis différemment, je le suis avec des idées qui sont peut-être plus abstraites, mais je le suis aussi. Et tu peux être créative dans un tableau Excel, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, je pense pas que ce soit... Moi, la créativité, c'est de voir les choses et de trouver sa façon de le faire à soi. Des gens, ils sont trop bons avec Excel, ils te font des trucs et tout. Moi, je comprends rien avec ça. Mais je pense que c'est le chemin que tu prends pour résoudre des choses. Ça, je pense que c'est ça, la créativité, de ne pas aller dans le chemin qui a été tracé et de trouver ta façon à toi. Donc, en fait, ça te demande de te reposer sur ta façon de penser à toi. Du coup, je pense à ton unicité, en fait. Parce qu'en fait, toi, tu vas voir les choses d'une certaine manière, peut-être pas comme la personne à côté. Donc, tu as ta façon unique de faire les choses et je pense que c'est ça la créativité parce qu'en fait, ça revient à toi, en fait. Et comme on est dans une société où il faut tous se ressembler, il faut tous faire comme tout le monde, je pense que c'est ça qui tue le truc, en fait. Parce que j'avais lu un truc comme ça sur la créativité sur les enfants. Ils leur donnaient une épingle ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'était une épingle. Ils étaient petits, ils avaient comme 3-4 ans et leur demandaient... Et puis, ils devaient lister le nombre de choses qu'ils pouvaient faire avec une épingle. Quand ils étaient petits... Genre, je sais pas, ils lisaient des trucs, mais c'était des centaines d'idées qu'ils étaient capables de sortir. Ok, avec une épingle, je peux faire un bonhomme. Avec une épingle, je peux faire ci. Ils ont refait l'expérience au fur et à mesure des années jusqu'à ce qu'ils aient 8-10 ans. Plus ils grandissent à cause du fait qu'ils vont dans des écoles, etc., où on leur dit, il n'y a qu'une façon de faire. C'est comme ça qu'il faut penser. Ça réduit la créativité. Et à la fin, ils arrivent à 8-10 ans. Bah, s'ils arrivent à te sortir 20, peut-être 20 idées différentes, bah, c'est ça qui va sortir. Alors que quand ils sont petits, c'est...
Ouais.
Donc je pense que c'est ça, c'est juste penser différemment. Mais on le sait que c'est pas bien vu forcément de penser différemment.
Ça me fait penser à sur mes carnets de correspondance, j'avais ne lis pas la consigne. Ah. Bah peut-être parce qu'elle m'emmerde.
Ouais, puis moi je le vois, j'ai un neveu qui est hyper créatif aussi, puis je vois son cerveau là, puis t'es à l'école, il se plaît pas du tout là, genre parce que je pense que ça le réduit énormément. Et il y a encore ça aussi, c'est qu'on apprend d'une certaine manière. Le système scolaire est fait pour, je sais pas pour qui, pour la vérité, je sais pas. Ils ont essayé de tout... Non, mais c'est vrai, ils essayent de tout aligner, genre, pour un certain type de personne. Mais en fait, déjà, il y a des gens, ils sont... Moi, j'ai une amie qui parle beaucoup de ça, de cerveau droit, cerveau gauche. On réfléchit pas des mêmes manières. Moi, on m'a toujours dit que j'étais nulle en maths. Et maintenant, je fais un truc de géométrie. Donc, tu sais, en fait, je me dis, mais ça se trouve, on m'aurait abordé les maths en montrant de l'origami et ce que je fais en ce moment. Et j'aurais trippé, en fait. Parce que pour moi, c'était du concret. J'étais en train de créer un objet. Donc, je pense que tout ça, c'est juste que l'école, vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. et qu'il devrait y avoir, on devrait pouvoir catégoriser plus et dire, OK, lui, il est plus comme ça, on va lui apprendre plus comme ça, mais ça marche pas comme ça, mais c'est ça.
C'est une grosse discussion qu'on a eue avec mes parents, c'est que la difficulté, c'est de savoir si ton enfant, il est comme ça aujourd'hui ou s'il est comme ça définitivement. Mes parents qui me disaient, mais quand j'étais petite, je leur disais que je voulais être coiffeuse. Et puis quand ils ont vu que ben, j'abandonnais l'idée, ils se sont dit, bah, en fait, elle veut pas vraiment être coiffeuse. Et elle nous dit qu'elle maintenant, elle veut être journaliste. Bah, est-ce qu'elle veut vraiment être journaliste ou est-ce que c'est encore une lubie ? En fait, je pense que c'est hyper compliqué parce que du coup, tu lui dis, bah ok, tu veux être coiffeuse, bah dans ce cas-là, va dans des salons de coiffure, va voir ce que c'est. Et puis, en effet, tu vas apprendre à être coiffeuse comme tout le monde est déjà coiffeuse. Ça se trouve, j'aurais été celle qui avait inventé le nouveau salon de coiffure.
Ouais, et puis, tu sais, aussi, il y a ça aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on vient tous de certains milieux, donc on est influencé par notre milieu. Se dire que peut-être que tu n'as vu que certains types de choses dans ta vie. C'est différent que quelqu'un, par exemple, qui a grandi dans une famille, genre tout le monde est vidéaste, tout le monde est dans la créativité, etc. Peut-être qu'il y a ça aussi, parce que moi, je n'ai pas d'un milieu où j'avais accès à l'art. J'ai eu la chance qu'on vienne dans ma classe pour me montrer les instruments de musique, dont les instruments à cordes, et de là a fait que j'ai voulu faire du violon. Mais des fois, je me dis, ouais, on serait jamais venu dans ma classe, ça se trouve, j'aurais jamais pensé à faire ça. Donc, moi, je pense aussi, c'est une question c'est d'opportunité, d'ouverture, et on n'est pas tous avec les mêmes opportunités. Donc, si t'as pas la chance d'avoir des parents qui t'amènent au truc, ou si l'école te l'amène pas, bah, je peux te dire, il y a plein de gens qui vont rester. Et c'est pour ça que quand on parle de diversité, justement, pas pour revenir au projet de plié, en fait, avec qui on a travaillé avec les danseurs, le manque de diversité dans les conservatoires, etc., vient pas forcément du fait que les gens sont pas intéressés ou ils sont pas doués. C'est juste que c'est un manque d'accès, genre, pour arriver jusque-là. Moi, j'ai fait 20 ans de conservatoire, je peux te dire que la diversité, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, comme je te disais avant, moi, je viens d'un quartier, c'est-à-dire que quand on voyait sur mes bulletins scolaires les dossiers au conservatoire que je venais de telle école, de tel quartier, comme, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait, parce que tu n'es pas censé être là. Donc, il y a tout ça, en fait, c'est le manque d'accès et d'opportunités pour arriver jusque-là. Parce que des fois, j'entends, oui, mais admettons, les gens sont pas assez doués, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et dans le milieu, là, comme on a fait ballet classique, et là, tu le vois, hein, genre... se trouvent toutes les excuses du monde. Ah oui, mais non, ça fait pas beau dans le corps de ballet si t'as un noir au milieu. Bah oui. Oh,
c'est tellement raciste comme remarque.
Ah ouais, non, mais là,
ça
moi, j'ai...
Ça fait pas beau d'avoir un noir, non, mais c'est...
J'ai entendu des horreurs, puis des danseurs, hein, c'est eux qui m'ont sorti ouais. Ces histoires-là. Et tu vois, paradoxalement, même si aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de discrimination, ils sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de ballets ouverts bah, aux Afro-Américains, etc., mais reste à ça qu'ils ont tous des histoires de dingue à raconter, en fait. Et ce projet-là, il a été important pour ça, en fait, parce que, mis à part le fait que j'ai fait des tutus, etc., je veux dire, il y avait le storytelling en arrière, c'était ça, en fait, c'était de montrer, en fait, que de montrer la diversité dans le milieu du ballet et qu'il y avait des danseurs qui sont aujourd'hui rendus des stars. Mais tu vois que dans... Je vais pas dire qu'en Europe, on a un problème avec ça, on a un gros problème avec ça. On en parlait, Opéra de Paris, ça commence, mais c'est un problème. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a beaucoup de journalistes qui se sont intéressés à ce cas-là quand ils ont commencé à avoir même des danseurs genre mixtes, c'est-à-dire ils ne sont même pas dark skin, genre ils sont light skin et c'est déjà un problème. Donc tu te dis, mais attends, là, on est dans une société au jour d'aujourd'hui, on parlait de l'ancien temps, on n'est plus dans l'ancien temps, la société a changé, il faudrait peut-être se faire une raison et se dire, bah, maintenant on veut voir ce que tu vois dans ta vie de tous les jours, tu veux le voir sur scène. Tu veux voir ça représenté. Et j'avoue que cette série-là, à la base, parce que moi, j'ai une nièce qui est métisse. Elle est moitié marocaine, moitié française. Et en fait, c'était vraiment venu. Elle était assez petite du jour où elle a commencé à me dire « Ah, mais moi, je serai jamais aussi jolie que toi parce que je suis pas blonde et que je suis pas blanche, en fait. » Et ça m'a tellement fait mal au cœur. Je me suis dit « Ouais, je veux jamais qu'elle puisse penser en fait qu'elle pourra pas faire les choses qu'elle a envie de faire parce qu'entre guillemets, elle ressemble pas au modèle qu'on voit. » Donc, quand j'ai commencé la série, je me suis dit « Ouais, tu sais, moi, je veux des danseuses qui lui ressemblent à elle. » Fait qu'on a trouvé des filles qui lui ressemblaient. On a vraiment eu un panel de plein de femmes différentes et c'est ça qu'on voulait montrer, en fait. Et quand on a fait l'expo, je peux t'assurer qu'on a des femmes noires qui ont pleuré en voyant les photos parce que c'était comme, moi, tu sais, genre là, on nous représente dans quelque chose où techniquement, on n'a pas accès. Alors que ces filles-là, elles existent, mais elles bataillent, en fait, pour avoir leur place. C'est intéressant. Ouais. Moi, si je peux utiliser mon art, tu vois, pour essayer, genre, de montrer ces trucs-là ou d'avoir ce storytelling-là, pour moi, c'est super important.
Bah non, mais c'est fort et c'est beau. Il y a un combat derrière, il y a du chemin. Hein. On passe le cachet. Mais même pour revenir sur la musique ou même la première problématique, c'est le prix de l'instrument.
Ouais.
Quand tu vois, tu.
Ah ouais, mais on parle d'accès. Oui. Ouais. Quand on parle d'accès, c'est vraiment.
Tu peux pas commencer le violon avec un instrument à 50 euros, quoi. Et ne serait-ce que ça, c'est compliqué. Ma mère, elle nous a raconté que sa prof de danse, donc elle vient de Normandie, sa prof de danse, elle était prof de danse et elle disait à ma mère quand elle était toute enfant, j'ai été rat de l'opéra, mais j'ai dû arrêter parce que j'étais trop grande.
Hmm?
C'est horrible, tu dis ça à un enfant.
Ouais, ouais, puis il se base vraiment.
Tu es quelque chose.
Ouais, ouais, t'es pas assez grand. Moi, j'ai tout entendu dire des danseuses, hein. T'es trop musclée, t'es trop grande.
T'as trop de poitrine.
T'as trop de poitrine, bah après on parle de la couleur de peau, t'es trop noire, t'es trop aussi, tes cheveux conviennent pas. Donc il y a tout ça. Hein. Puis tu dis, bah, encore aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de vivre encore sur des critères qui datent de je sais même pas quand. Genre, tu vois, on vit plus, on a plus à la même époque. Faudrait... Moi, c'est juste ça, c'est est-ce qu'on va se réveiller, on n'est plus à la même époque, on ne vit plus dans les mêmes dynamiques au jour d'aujourd'hui. Donc pourquoi on s'attache? Moi, c'est le truc de s'accrocher à quelque chose qui n'existe plus. Ça, je ne comprends pas. Cette société-là n'existe plus. Pourquoi on s'accroche à ce point-là dessus? On refuse, en fait, de voir la vérité en face. Et puis ça, sans pas avoir des noms de discussion là-dessus, mais genre...
J'aimerais qu'on revienne sur une question qui est ta relation avec ton art, notamment parce que avant qu'on enregistre, on en a un peu parlé et on a parlé d'un aspect qui est important pour tout le monde, y compris les artistes, c'est de manger et de gagner de l'argent pour vivre. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu justement de ta vision de tout ça, de ta façon de vivre ton art.
C'est vrai qu'on en a discuté avant, je pense que l'Amérique du Nord est très différente sur ça. C'est-à-dire que les artistes, en fait, ils peuvent faire les expositions, être en galerie, représenter en galerie. Ça ne les empêchera pas de faire des collabs sur le côté ou avec des marques ou avec des clients, en fait. Parce que moi, je travaille beaucoup avec des clients aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement les œuvres que je fais moi ou les expositions que moi, je monte par moi-même. Il y a aussi tout ce travail, en fait, que je fais avec des clients. Et pour moi, ce n'est pas incompatible, en fait. Parce que de toute façon, le point commun, c'est qu'on vient toujours me chercher pour ce que je sais faire. C'est que moi, je le vois comme ça, c'est que moi, je prends des clients aussi parce que j'ai de la chance, moi, on me propose des projets vraiment fous. Puis après, bah, je gagne de l'argent et je monte mes propres projets parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Hein. Monter une exposition toute seule sur son argent, ce n'est pas donné. Fait que si à un moment donné, tu n'as pas une rentrée d'argent autre, puis alors oui, je pourrais faire n'importe quel métier. Tu vois, moi, je donne des cours, donc je suis déjà un petit peu prof et tout. Mais ce que je veux dire, je pourrais faire d'autres choses pour gagner de l'argent. Ce qu'il y a, c'est que là, on me propose de l'argent quand même pour faire ce que je sais faire. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que souvent, les clients, ils vont demander des choses que tu n'auras peut-être pas pensé à faire. Et moi, j'avoue que ça m'a fait énormément évoluer. Ça veut dire que des fois, on me demandait de faire quelque chose que je ne fais pas du tout d'habitude. Et là, du coup, ma créativité rentrait on va dire, bon, je suis déjà créative, mais je veux dire, ça me faisait penser différemment. Donc moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai même fait des stop motion en papier. Ça veut dire qu'on m'avait appelé pour faire des petites animations en papier. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire ce qu'ils appellent des props, donc des accessoires en papier. Et du coup, j'ai fait une animation en papier et genre, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que là, on m'a demandé de travailler sur des trucs. J'avais jamais pensé à mettre en mouvement mes trucs et à travailler avec un animateur. Et on a travaillé en team avec l'animateur pour animer toutes ces petites choses en papier. Et je me dis, bah, en fait, c'est génial parce qu'en fait, je peux utiliser les techniques que je maîtrise déjà au service d'autres choses et sûrement quelque chose vers lequel j'aurais jamais été. Et en fait, tout ça fait que ben, maintenant, j'y pense pour mes expositions. Je me dis, ouais, c'est vrai que je pourrais faire des vidéos animées de mes trucs. Donc, en fait, pour moi, c'est une chance, en fait, de pouvoir, malgré tout ça, vivre quand même de ma technique, en fait, peu importe ce qu'on me demande. Bien sûr, j'accepte pas tout, mais en fait, je me dis, mais tant qu'on me demande, en fait, pour ce que je sais faire, pourquoi je dirais non? Surtout si ça me permet de payer toutes mes factures et mon studio, etc. Et en plus, ça me permet de pouvoir financer, m'auto-financer sur mes expositions et mes œuvres à moi, en fait. Parce que c'est de l'argent, les encadrements, ça coûte cher. Je veux dire, comme tout ça, ça tombe pas du ciel. Donc, moi, j'ai toujours vu les deux qui se complémentent totalement parce que, en fait, après, moi, j'aime faire plein de choses. On voit mon portfolio, je suis de l'installation en gros, comme je suis capable de faire, moi, dire, des œuvres encadrées, comme je vais faire du costume. Donc, moi, quand on m'appelle, par exemple, pour des shootings fashion, parce que quelqu'un a vu mes trucs, là, il veut, je sais pas, j'aimerais bien que tu me fasses une pièce, un chapeau ou un truc, mais dans mon style, Bah, bien sûr que je vais dire oui. Aussi parce que je pense que j'aime collaborer avec les gens, j'aime travailler avec les gens. Fait que ça t'amène toujours plus loin, comme je disais tout à l'heure. Tu vas travailler avec des photographes, avec des vidéastes, ils t'apportent des idées. Donc, on s'enrichit les uns les autres, en fait, de travailler tous ensemble. Et c'est drôle, je pense qu'en cinéma, ils ont ça. Ils sont habitués à travailler tous ensemble, à collaborer ensemble avec plein de corps de métiers différents. Et en fait, je pense que moi, être toute seule dans mon studio, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, hein. C'est vraiment pouvoir pousser des projets puis aller travailler avec des gens. Donc oui, je peux produire mes expos, moi, faire mes œuvres et tout. Mais en fait, je me rends compte que maintenant, mes expositions, même celles que je pense dans ma tête pour le futur, moi, je vois de la musique avec mon art. Je vois des senteurs aussi. Je vois du parfum. Je vois des... Toi, j'aurais envie d'apporter vraiment un truc 360, en fait, une vraie expérience et de la vidéo et de l'animation. Donc... pour moi, ça ne s'arrête pas simplement à ce que je suis en train de faire là. C'est vraiment tout ce qui va aller autour. Et ce qui est de travailler comme ça, avec d'autres contrats, d'autres types de clients, bah, ça m'ouvre sur d'autres choses. Je n'aurais peut-être pas rencontré des animateurs si j'étais juste restée dans mon atelier toute seule à focusser sur juste un truc. En fait, ça m'a ouvert sur d'autres choses. Fait que moi, je suis reconnaissante de tout ça, d'avoir travaillé avec des photographes, des vidéastes, etc. Ça t'ouvre le champ des possibles, en fait. Moi, je le vois comme un plus. Je l'ai jamais vu comme un moins où c'est vrai qu'on m'avait dit « Ouais, mais fais pas trop des collabs, parce qu'après, t'es plus une artiste. » Mais j'ai dit « Mais qui a dit ça ?» Non, mais vraiment, je veux savoir c'est qui la personne qui a pu dire ça dans la vie, parce que mais à quel moment un artiste, il peut vivre, comme je disais, d'amour et d'eau fraîche, quoi, genre comme un meuf, nous aussi, on a des factures à payer. Donc, qui a dit qu'un artiste, du moment qu'il allait travailler pour un client ou un truc, il perd sa valeur ? Moi, je comprends pas cette logique. Peut-être parce que je viens pas de ce milieu-là, mais je ne comprends pas cette logique.
Je suis assez d'accord. Je ne sais pas si tu le connais, Maître Verrier Emmanuel Barrois, non. Qui est un maître verrier français, qui reprend un peu ton idée de... Je trouve ça hyper enrichissant de travailler avec plein de métiers différents. Donc Emmanuel Barrois, c'est une reconversion. Il a découvert le verre à la fin de ses études. Et lui, il a fait des études en agronomie. Et donc il explique que en agronomie, quand on te parle de troupeaux, on te dit les bienfaits du concept d'hybridation. L'hybridation, ça veut dire ben si tu fais te reproduire tout le temps les mêmes vaches avec le même taureau et ainsi de suite, ben en fait ça va te faire des problèmes dans ton troupeau parce que ils seront un peu teubés. Hein. C'est le concept de l'inceste, voilà. Et donc il dit que en agronomie, c'est normal de croiser des espèces, de croiser des races, de croiser des troupeaux pour obtenir le meilleur de chaque espèce. Et en fait, dans son travail de verrier, il a appliqué la même chose en disant ben moi je veux faire un travail d'hybridation et notamment il a une œuvre qui m'a moi vachement marquée, c'est il a fait un échafaudage en verre de 15 mètres de haut. Qu'il a installé, donc qui est montable et démontable, je crois qu'ils ont dit, en 3 jours, je crois. Donc ce qui est rien, hein, 15 mètres de verre en 3 jours, c'est pas grand-chose. Et du coup, qui va pouvoir se balader, et en l'occurrence, qui va se balader un peu partout dans le monde. Je crois qu'il... Donc il a commencé, la première installation qu'il a faite, c'était dans les jardins du Palais Royal, qui est un jardin où, en dessous, c'est une énorme carrière. Donc il dit, en fait... le plus gros challenge, ça a été de se dire, on aimerait bien que le jardin du Palais Royal, ça ne s'effondre pas sous le poids, parce que je crois que ça fait 8 tonnes. donc en fait, il a dit, moi j'ai fait intervenir des ingénieurs, et ça a représenté 3000 pages de calcul pour voir si c'était faisable, et il dit, mais sans eux... j'aurais pas été capable de faire cette œuvre. Et donc, je trouve ça... Enfin, ouais, moi, ça me parle beaucoup, ce concept d'hybridation. Et finalement, je trouve que la créativité... On parlait de créativité, je trouve que la créativité, elle est là. C'est qu'en rencontrant d'autres gens, en rencontrant d'autres univers et d'autres façons de penser, puisqu'ils sont, en l'occurrence, câblés d'une façon différente de la tienne, bah, toi, ça te permet vachement de sortir de tes sentiers battus, d'imaginer d'autres choses...
Ouais. Puis de toute façon, t'as besoin de nous. Enfin, regarde, si on en revient à la haute couture, hein. La haute couture, oui, t'as un designer, genre, qui a les idées, etc. Mais s'il n'y avait pas les petites mains en bas, il ne peut rien faire, en fait. Donc, c'est un vrai travail, là, de collaboration entre le savoir-faire des gens qui savent tout coudre à la main, etc. et les idées qui sont en haut. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Ouais. Parce que peut-être que on va dire, tous ces gens-là, s'ils sont artisans, peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette idée-là. Mais là, du coup, on leur donne un challenge. Ok, ça, eux, ça les fait penser différemment. C'est un vrai travail de collaboration. Et je pense que sur les gros artistes sur la planète, là, il y en a beaucoup maintenant, et on ne parle même plus de fait qu'ils sont artistes indépendants, ils ont des studios. C'est-à-dire que des fois, ils sont 8, 10, même si tu as une tête, on va dire la tête d'affiche qui est l'artiste, mais en fait, en arrière, ils ont toute une équipe en fait, pour travailler avec eux et amener des projets plus loin. Surtout quand on parle de gros, en fait. Moi, j'ai quand même fait des grosses installations, et en fait, par exemple, juste les installateurs. Je veux dire, même si ça reste du papier, moi, je suis pas installateur. Moi, je connais pas accrocher des trucs et que ce soit sécuritaire pour les gens. Donc, moi, je peux bien avoir les idées, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour l'exécuter, moi, je suis là, en fait. Donc, non, ça demande énormément de collaboration, mais c'est juste que je pense que c'est une idée qu'on se fait, en fait. Hein, parce que, en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tous les plus gros artistes au niveau planétaire, des fois, moi, je parlais même des gens qui font, tu sais, du graffiti ou de la murale. Des fois, t'as l'artiste, mais en fait, c'est même plus lui qui peint. Ils ont des équipes.
Ah ouais?
Mais oui.
Je savais pas ça. Tu crois que Banksy, c'est plus lui?
Banksy, je sais pas, tu vois, mais t'as des gars comme OB Giant, etc., qui sont quand même des. Ils ont fait des carrières incroyables, mais au jour d'aujourd'hui, c'est les assistants qui viennent. Lui, il peut faire le sketch, etc., mais souvent, c'est pas lui qui peint, parce que les projets, ils sont de plus en plus nombreux, etc. Tu peux pas être partout. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, après, ça dépend ce que tu veux comme carrière. Et ça, je pense, après, c'est un autre débat, mais je veux dire, après, ça dépend quel type de carrière tu veux. Est-ce que tu veux vraiment faire toutes tes œuvres à la main? Les Japonais, ils font ça, tu sais, ils te sortent que 3 œuvres par an, puis c'est tôt. Parce qu'ils ont tout fait de A à Z. Et il y en a d'autres, ils veulent être, peut-être, ils ont trop d'idées. Alors là, ils sont au four et au moulin, etc. Donc, à un moment, ça te prend d'avoir des équipes qui correspondent à ce que tu veux faire. Parce que peut-être un jour, tu vas vouloir faire de la vidéo. Après, tu vas vouloir faire une installation. Mais c'est tes idées créatives à chaque fois. C'est juste que tu vas. Tu sais, je pensais, comment s'appelle la japonaise qui a fait la grosse collab là, avec Louis Vuitton l'année dernière? Non, c'est Kusama, non, c'est ça?
Ah, je sais plus.
Qui a fait tous les petits moulins, là, colorés. Elle. Elle a quand même fait une collab avec Louis Vuitton, mais alors quoi? Elle est partiste parce qu'elle a fait une collab avec Louis Vuitton. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est après, je sais que là, on est dans le luxe, puis c'est réputé et tout.
Yayoi Kusama.
Ouais, puis il faut voir. Enfin, moi, c'est drôle parce que l'année dernière, j'étais déjà entre Londres et Paris à ce moment-là quand ils ont sorti la collab. Donc, j'ai vu tout le déploiement genre de la campagne, mais incroyable. Genre, il y avait une statue de la hauteur du Harrods. Tu sais, à Londres, il y avait une statue d'elle, genre dans la rue, comme ça. Elle était en train de. Comme si elle peignait le Harrods. Et après, t'avais des points, genre, sur le. Incroyable. Ouais, franchement, cette campagne, elle m'a impressionnée. J'ai dit, mais dans tous les Louis Vuitton où t'allais, il y avait une installation différente. Genre, ils ont vraiment tué ça. Genre, vraiment, c'était incroyable. Paris, il y avait comme un gros ballon qu'ils ont gonflé sur le Louis Vuitton, genre de. Les Champs-Élysées. Fait que c'était sa grosse tête, genre, qui est sur le building. Mais tous les Louis Vuitton, ils avaient une installation différente. Donc, tu pouvais voir vraiment quelque chose de différent à chaque fois.
C'est incroyable. Donc, c'est le genre de collaboration qui montre que, en fait, tu peux complètement être artiste et rester artiste et travailler avec une marque.
Ouais, parce que tu peux avoir du fun pareil. En fait, admettons, moi, j'adore faire des vitrines, par exemple. Alors quoi, j'aurais pas le droit d'en faire parce que genre c'est du commercial en fait. Mais quand on m'aborde et qu'on te dit vas-y, on te laisse carte libre dans une vitrine, c'est trop le fun, hein, genre parce que c'est une autre dynamique et ça reste que t'as des gens qui vont voir les trucs, donc t'es vraiment dans autre chose. Mais moi, franchement, les vitrines, j'adore faire ça. Mais après, apparemment, c'est juste du commercial. Mais après.
Bon, non, je suis pas d'accord, mais bon, chacun son avis.
Moi, je me mets pas de limite. Moi, en fait, tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure, après la musique classique, j'ai tellement été frustrée de rentrer dans des boîtes, de pas faire ci, de pas faire ça. Je pense que j'ai tellement trouvé ma liberté avec le papier, là, maintenant, que moi, tout ça, là, j'ai plus envie d'en entendre parler, en fait. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Puis, si on doit me juger, on me jugera, mais je veux dire, moi, je le fais toujours avec le cœur. Je le fais toujours avec ce que j'ai envie de faire. Et ça vient vraiment d'une lumière que j'ai à l'intérieur de moi, on va dire. Puis ça, j'ai vraiment envie de le faire. Et en fait, j'ai pas envie de me donner ces limites-là ou ces espèces de croyances-là. En fait, en gros, je m'en fous. Genre, vraiment. Et moi, c'est juste une question de... J'irai jusqu'où j'ai envie d'aller, en fait. Sans limite, sans rien. Parce que pour moi, en fait, tout qu'on te fait d'artiste, c'est ça, c'est t'accueilles tout ce qu'on te donne, puis si t'as envie de le faire, tu le fais, puis c'est tout en fait, parce que c'est juste la liberté de pouvoir faire en fait être artiste. Donc tu raconteras l'histoire que t'as envie de raconter avec les médiums que t'as envie de raconter. Si demain j'ai envie de switcher de matériel et de passer à complètement autre chose, ça ne regarde que moi en fait, ça regarde personne d'autre. Si demain je te dis je fais du métal, peut-être que je vais faire du métal.
Ça veut dire que bientôt t'allais nous faire du plissé métal.
Mais non, mais pourquoi pas, tu vois, genre moi j'ai pas envie de me donner de limites. Si ce que j'ai envie de raconter, le papier correspond pas à l'histoire que j'ai envie de raconter, je vais changer. je vais aller vers autre chose. Donc, ouais, je me donne pas de limite, fait que...
C'est une bonne façon de raconter ta relation avec ton art. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote en relation avec ton art ?
Alors oui, j'ai une anecdote. J'ai rien à montrer parce qu'en fait, genre, c'est jamais sorti. Je sais pas si ça va sortir. En tout cas, peut-être qu'un jour ça va sortir, j'espère. Mais j'ai travaillé pour un grand média américain et on a shooté en fait une vidéo sur le top d'un building à New York. Et on a habillé une danseuse en papier, puis on l'a fait danser en fait sur le top du building. Et c'était un lever de soleil à 5h du matin à Manhattan. Je pense que ça, c'est un des plus grosses anecdotes. Ouais, ça pour l'instant, j'ai pas le droit de le montrer. Mais
c'est frustrant.
C'est super frustrant. Mais après, moi,
c'était quand?
C'était avant Covid, donc c'était,
c'était 2019.
Ouais. Mais ça, c'est la plus grosse anecdote que j'ai parce que c'était juste fou. Genre, c'était vraiment un moment de vie. Mais après, il faut les prendre. C'est des moments de vie. Genre,
mais on a espoir que ça sorte un jour ou...
Je pense que si le média ne le fait pas, on aura le droit de le faire. Parce qu'on est en embargo, en fait, avec eux. L'embargo finit cette année.
Oh, alors, on le voit peut-être.
Ah ouais, non, genre, je croise les doigts. Parce qu'à chaque fois, je suis comme... Ah, genre, c'était trop...
En 2024. C'est quand 2024?
Hein?
Ça finit quand exactement?
Bah, on avait shooté en juin, donc effectivement, c'est juin 2024. Ouais, ouais, genre, on a eu des discussions avec le réalisateur il y a pas longtemps, parce que on se parle quand même assez régulièrement, en fait, parce que même lui, il était frustré, en fait, parce que c'était vraiment beau ce qu'on avait fait. Mais c'est ça, hein, Covid est passé dessus, et je pense qu'ils nous ont oubliés, tu vois, ils sont quand même manqués, ils étaient passés à autre chose, mais ouais, ouais. Ça, c'est une vraie anecdote. Mais des fois, c'est ça, hein, t'as des moments de vie, tu les vis pour toi. Et moi, je sais que c'est un de mes meilleurs moments, même si je peux rien montrer, mais c'est pas grave, ça, c'est mon anecdote.
Eh ben, j'ai hâte qu'on soit en juin 2024.
Moi aussi.
Est-ce que tu peux nous raconter un projet sur lequel tu as fait beaucoup de recherches?
J'ai fait les vitrines pour Nespresso il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Et en fait, c'était une campagne mondiale. Et en fait, ils ont fait customiser toutes les vitrines Nespresso par des artistes différents selon les pays, les villes. Donc, on était, je pense, peut-être 50 ou 60 artistes à travers la planète à travailler sur ce projet-là, qui était un projet par rapport au fait qu'ils recyclent les capsules, etc. Donc, c'est sustainability, genre vraiment le développement durable. Donc, chaque vitrine était différente. En fait, on avait les mêmes lettres en carton du slogan, on va dire. Et en fait, c'était à nous de faire quelque chose sur les lettres. Fait que là, c'était carte libre aussi. Et là, j'ai fait énormément de recherches parce que du coup, moi, je suis partie vraiment sur un truc sur les textures de la nature. Et chaque lettre avait genre une texture différente. Fait que là, j'ai fait énormément de travail de recherche de textures que moi, j'aimais ça. Tu sais, genre les dessous des champignons, tout ça, c'est une texture, genre que ce soit des écorces d'arbres ou des machins. Et donc, j'ai fait tout un panel de textures que j'ai réinterprété en papier. Et ensuite, chaque lettre avait vraiment sa texture, sa couleur, etc. C'était lettre en 3D. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas travailler que du pli à ce moment-là. Donc, il y a eu des trucs où j'ai travaillé du pli. Mais alors après, je suis partie dans un délire de faire... moi, j'ai appelé ça des écailles. C'est-à-dire vraiment faire des textures feuille à feuille ou des petits trucs, des petites écailles. On a fait tout un panel de ça et chaque lettre avait vraiment... son identité. J'ai fait des espèces de mousse en papier. Donc, c'est la première fois que j'allais aussi loin dans la recherche de texture. Et quand je disais tantôt que des fois, on t'amène un projet, t'aurais jamais... Peut-être que ça m'aurait mis du temps à penser comme ça. Mais du coup, après ça, ça m'a fait tellement triper de me dire « Waouh, c'est vrai que je pourrais mettre des textures. » Je suis partie sur un délire à commencer à me dire « Ouais, je pourrais faire des origamis poilus, genre avec du poil dedans, mais tout fait en papier. » Je suis partie dans un délire.
Et comment tu fais les textures?
Tout est découpé. En fait, on avait... justement, là, c'est là que j'ai commencé à travailler beaucoup avec la découpe laser. Donc, faire découper tout au laser, genre toutes les petites textures. Donc, on avait tout designé sur ordi. Et ensuite, on a tout fait sortir au laser. Et ensuite, c'était de les manipuler. Tu les frises. Tu travailles chaque petit pétale, chaque petit truc. Il y a beaucoup de paper artists qui font ça, par contre. Donc, tu travailles chaque petit truc. Et ensuite, tu les colles ensemble. Tu fais des montages. Mais j'ai trop adoré faire ça. Et là, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est ça qui était venu, les furigamis. J'avais appelé ça les furigamis. C'est vraiment des origamis pour la vie.
Les furigamis.
Parce que, c'est-à-dire, au studio, en fait, on avait... Parce que sur ce projet-là, j'avais des assistantes, parce que c'était beaucoup de vitrines en même temps. Et donc, je travaillais vraiment avec des assistantes. Et puis, on était partis sur un délire. Parce qu'à chaque fois qu'on en voyait, on les trouvait tellement cute. On disait, tu sais, on dirait des petites poupées, là. Genre...
Trop mignon. À part cette vidéo en juin 2024, quels sont tes projets futurs et tes envies futures pour toi ?
Il y a deux choses. C'est ça, moi, la semaine prochaine, je m'en vais à Londres pour un premier projet en Europe. Et ça, je suis vraiment excitée.
Bravo.
Parce que... ouais, parce que après 16 ans en Amérique du Nord, j'ai fait beaucoup de projets là-bas. Et ça faisait plusieurs années que je m'étais dit, mais en fait, t'es européenne, en fait, tu vois, genre, serait peut-être temps de revenir un petit peu vers là. Et ça fait 2-3 années que je vais à Londres. Ça n'a jamais débouché, en fait. Et que là, c'est la première fois qu'on me propose de faire quelque chose là-bas. Alors, je suis super contente parce que, ouais, c'est un peu revenir à la maison, en fait, même si c'est Londres, même si c'est l'Angleterre, mais ça, c'est revenir vraiment sur le continent. Et ça, ouais, c'était une de mes envies, en tout cas, depuis plusieurs années. Donc là, ça se concrétise, fait que je suis trop contente. Et je prépare mon premier solo show aussi. Parce que jusqu'à maintenant, bon, j'avais fait beaucoup de collabs, etc. Mais c'est ça, là, j'ai vraiment une envie de faire des choses pour moi et faire un show, même si je sais qu'il va y avoir des collabs, je sais qu'il y aura de la photo, je sais que je ne vais jamais faire quelque chose qui est juste du papier. Comme je te disais, il y aura sûrement de la vidéo, il y aura sûrement peut-être du parfum, il y aura de la musique. Je sais que mais je veux faire vraiment un storytelling qui m'est propre, avec mon histoire à moi et mon histoire de famille. Donc, c'est ça. Je suis en train de préparer ça depuis... Ça cogite dans ma tête. Mais cette année, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser aussi pour ça.
C'est quand ton solo show ?
Il n'y a pas de date parce que genre, j'ai encore 2-3 trucs. Voilà, ma famille est d'origine d'Algérie. Fait que là, je suis mon premier voyage en Algérie aussi. Et je sais que ça, en tout cas pour moi, je le sais, va débloquer beaucoup de choses. Je sais que comme je veux que ce soit en relation aussi avec ça, j'attends d'y aller en fait pour éclairer plusieurs idées que j'ai eues et je me dis si ça se concrétise, c'est sûr que ça va partir dans ce sens-là. Mais ouais, ça, j'ai cette envie-là de faire quelque chose pour moi, vraiment 100% pour moi.
Trop bien. Bah écoute, je te le souhaite. En t'écoutant, je me suis posé la question, t'as déjà fait du pliage d'une photo ?
Non, en fait, c'est drôle parce que je l'ai vu faire de plusieurs artistes. Alors moi aussi, j'ai ce truc-là d'avoir, au début, quand j'ai commencé, tu vois, je regardais ce que les gens faisaient. Puis je me dis, je vais faire rien de ce qu'ils font eux. C'est pour ça qu'au début, comme par exemple, c'est rare que j'utilise du blanc, parce que je me suis rendu compte que toi, les paper artists ou les gens qui font de l'origami, sûrement pour le côté très luxe, etc., utilisent que du blanc. Et je me suis dit du départ, je vais jamais utiliser de blanc. Genre, ce sera que de la couleur. J'utilise beaucoup le noir aussi. Mais après, j'aime la couleur, hein, de toute façon. Et c'est drôle comment j'ai du mal maintenant à faire des trucs en blanc. Là, on vient de me demander une sculpture en blanc. Je te jure, j'ai galéré. Parce que c'est comme, c'est pas du tout moi. Genre, mais c'était un challenge. Là, je me dis, ok, là, on te demande un truc en blanc, il va falloir que tu trouves une solution, que ça soit intéressant pour toi. Tu vois, le client, je pense qu'il aurait aimé n'importe quoi, tu vois, il aurait été content avec ça, mais moi, j'étais comme, ok, quelque chose qui me plaît à moi en blanc. Donc, ça, c'était maintenant, c'est drôle, parce que je reviens à ça, je me dis, ok, là, maintenant, c'est un challenge pour moi de revenir vers des trucs où j'avais été tellement loin ailleurs en me disant, moi, ça, je fais pas. Et maintenant, je suis en train de me dire, OK, bon, ouais, on va réessayer. Mais ouais, j'avais vraiment cette volonté-là, je sais pas, de me dire, ah non, ça, les gens font déjà. Après, tu peux toujours trouver ton twist à toi. Peut-être que j'y viendrai, mais d'une autre manière, je pense. C'est vrai, parce que j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps, parce que ma mère, elle m'a donné plein de vieilles photos, justement, de mes grands-parents en Algérie, etc. Et je me suis dit, ah, ce serait cool de les intégrer dans l'expo et de faire quelque chose avec. Mais je ne sais pas encore exactement quoi.
Dans le podcast, on a un mot de la fin, qui est un peu ce que tu souhaites. Normalement, c'est ton métier. Là, j'ai plus envie de te poser la question de qu'est-ce que tu souhaites pour les artistes en général, en fait.
Ben, en fait, ce que je souhaite, c'est déjà, moi, je suis une femme et je pense que j'aimerais voir encore plus de femmes dans les musées, plus d'expos de femmes. Je pense qu'on a tellement été un peu effacés de l'histoire de l'art que j'aimerais qu'on reprenne en tout cas notre place et qu'on ait en tout cas un nombre plus équitable de femmes représentées en galerie et d'expos dans les musées. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, bah, comme je parlais, hein, que ce lien-là entre l'artisanat et l'art soit enfin, mais cassé, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font des choses incroyables en artisanat. Et je pense que pour moi, c'est des artistes d'art contemporain. Et que tant que cette cassure va pas être faite, pour que ça ouvre... En fait, la possibilité à beaucoup de femmes, en fait, de pouvoir passer de l'autre bord. En fait, comme je te disais tantôt, moi, je suis quand même assez persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été artistes depuis longtemps, mais que parce qu'elles étaient considérées comme dans l'artisanat, n'ont pas été considérées comme dans l'art contemporain, alors que ça ne fait aucun sens. Et le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes quand même dans les métiers de main et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait qui est pas normal là. J'ai vu tellement des belles expos, je pense principalement à Londres. De femmes qui faisaient de la tapisserie, mais genre j'ai vu l'exposition de Magdalena Abramovic et elle faisait ce qu'elle appelle les abacans, mais c'est genre des tapisseries. Je me rappelle être rentrée à la salle et j'ai eu des frissons partout tellement que c'était fort et puissant.
Abakanovic.
Voilà, j'ai massacré le nom, je suis désolée. Mais je l'ai vu au Tate Moderne, la dernière fois que je suis allée à Londres. Et genre, s'il y a bien une exposition qui m'a foutu par terre tellement j'étais impressionnée, c'est celle-là. Parce qu'elle faisait des tapisseries à partir de crins de cheval. Déjà, ça sent quelque chose quand tu rentres dans la salle. Mais alors, tu vois vraiment son évolution. Et du moment qu'elle a commencé à faire ce qu'elle appelle vraiment ses abacans, on dirait des... comme... en ce sens qu'elle est suspend, en fait. C'est suspendu par le plafond. Donc, il y a toute une pièce, on dirait comme des espèces d'immenses fantômes noirs. Genre, c'est hyper impressionnant. Tu te dis, mais en fait, c'est une artiste d'art contemporain. Et pourtant, elle a démarré, elle fait du tissage, en fait. Puis maintenant, elle est morte maintenant. C'est ça le truc, c'est que je veux pas qu'on attende que les femmes elles soient vieilles, qu'elles aient 80 ans, qu'elles soient mortes, pour se dire, ah, en fait, c'est des artistes d'art contemporain. Est-ce qu'on peut être considéré dès maintenant? Parce qu'en fait, genre, les hommes sont déjà considérés dès maintenant de leur vivant. Je vois pas pourquoi nous, on devrait attendre. Donc, c'est juste ça. Il y a beaucoup d'expositions que j'ai vues. Et je pense qu'une, justement, qui m'avait marqué, parce que je me suis dit, comment ça se fait que j'étais pas au courant? Alors moi, je veux bien me mettre le blâme sur le dos, que j'ai pas assez fait mes recherches et tout. C'est Lee Krasner, qui était la femme de Jackson Pollock. Et je me rappelle avoir entendu Jackson Pollock en long, en large, en travers, avoir vu les tableaux, etc. Mais sa femme, moi, j'avais jamais entendu parler d'elle. Et à un moment donné, je vais au Barbican à Londres, il y avait une exposition rétrospective de toute sa carrière, de tous ses tableaux et tout. Puis déjà, par rapport à son nom, j'avais dit « Oh, ok, je vais y aller », mais je n'avais pas pris conscience de ce que c'était. Moi, je vais comme ça dans les expos, des fois, je ne sais pas ce que je vais voir, je rentre. Et quand j'ai compris que c'était la femme à Jackson Pollock, j'étais choquée. Je dis « Mais on n'en avait jamais parlé ». Et après, c'est fou comment j'étais attentive de voir comment on l'a amenée dans l'histoire de l'art, comment elle était dépeinte dans les livres d'art. Et bien, c'était toujours la femme d'eux. Quand il parlait d'elle, c'était toujours la femme d'eux. Et Jackson Pollock, par contre, tu peux regarder son portrait à lui. Si on parle de Lee Krasner à un moment donné, c'est parce qu'elle avait fait sa compta, tu vois, genre limite un truc comme ça. Tu te dis, mais waouh, tu sais, comment l'histoire elle est racontée, mais complètement différemment. Genre Lee Krasner, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, Lee Krasner, première phrase de sa bio, on va te dire que c'est la femme d'eux. Mais Jackson Pollock, jamais on va dire c'était le mari de Lee Krasner, en fait. Donc ça m'a frappé. Et après, je me suis dit, ok, j'ai un travail à faire, même moi, de me déconstruire, parce que j'ai beaucoup à apprendre, en fait, sur cette histoire-là, en fait, qui n'est pas racontée.
C'est le cas aussi de Consuelo de Saint-Exupéry,
oh,
qui était, en fait, l'épouse de Antoine de Saint-Exupéry. Et en fait, elle a énormément contribué, mais vraiment énormément contribué à sa reconnaissance à lui. Okay. Mais elle n'est pas connue.
Mais tu sais, ça, j'ai un super livre à recommander, genre si vous voulez faire une lecture, mais il est en anglais, je sais pas s'il a été traduit en français. Ça s'appelle The Ninth Street Woman, et c'est un livre d'histoire, en fait, mais qui raconte, en fait, l'apport des femmes dans le mouvement expressionniste américain. Donc, Lee Krasner et toutes ces femmes-là qui ont fait partie du mouvement. Et le livre, il est incroyable parce qu'il remet en perspective que les femmes ont joué un rôle énorme dans le développement de ce mouvement, et qu'elles n'étaient pas à part, là. Elles étaient dedans. C'est-à-dire que même Lee Krasner, je pense que Jackson Pollock, c'est clair qu'il n'aurait pas eu de carrière si elle n'avait pas été là. Parce que quand tu écris, quand tu lis le bouquin, comment elle l'a aidé, parce qu'il était alcoolo, et il avait l'air d'être chiant, en fait, tu vois. Et elle l'a vraiment mis en contexte pour qu'il puisse faire carrière. Mais du coup, c'est vrai que même si elle a fait des trucs, à un temps, tu vois, il s'est dit, elle a mis sa carrière de côté, en fait, parce qu'il fallait qu'un des deux travaille pour qu'il mange. Mais le livre, il est incroyable là-dessus. Et c'est du point de vue des femmes. Mais il n'y a pas beaucoup de livres comme ça. Et souvent, c'est des livres anglophones, malheureusement. Là, je suis en train d'en lire un autre, ça s'appelle, je vais le dire en français, mais c'est L'histoire de l'art sans les hommes.
Oh.
Et c'est une fille, d'ailleurs, elle a un podcast aussi sur, je crois que ça s'appelle The Great Woman Artist, si je ne me trompe pas. Et elle a écrit ce livre-là, c'est vraiment... comment c'est en anglais? Je ne sais plus, mais le livre, il est incroyable. Quand tu vois la couverture de loin, c'est juste écrit « Histoire de l'art ». Et « Sans les hommes », il est écrit dans une autre typo, mais moi, tu es obligé de prendre le livre pour voir que c'est écrit « Sans les hommes ». Mais là, j'ai commencé à le lire aussi, puis ça part de la Renaissance. Et il t'explique tous les âges, et c'est que les femmes. Il n'y a aucune mention d'hommes, je suis désolée, mais genre là, c'est vraiment, mais c'est intéressant parce que tu te dis, mais en fait, c'est ce qu'ils ont fait de l'autre bord. Nous, on n'est pas dans l'histoire. Où on était les femmes d'eux, on était folles. Genre, je pense tout le temps à Camille Claudel, la pauvre. Genre, c'est comme elle a vraiment été vue comme une folle dingue, alors que c'était une sculptrice magnifique. Mais le livre, c'est ça, il te parle de ça. Et c'est fou parce que tu te rends compte à quel point genre il y a des femmes qui ont été visionnaires sur des trucs. Genre moi j'ai vu dans le là où j'en suis, il parle d'une femme qui a peint ce qu'il considère sûrement un des premiers portraits d'homme noir et elle avait peint genre le portrait du roi d'Éthiopie. Alors il y a plein de trucs comme ça, t'es comme waouh. Genre moi j'étais pas au courant moi de ça, toi. En fait même moi j'étais encore une fois c'est comme pour l'expo de Dick Crasser, je me dis je m'en veux, je me dis comment c'est que je suis pas au courant de ces trucs-là. Moi ça m'a fait mettre en question plein de trucs hein. 20 ans de conservatoire. Je n'ai jamais étudié une compositrice femme.
Justement, j'ai rencontré, si je ne me trompe pas, une des rares chefs d'orchestre. Chef feu d'orchestre. Je crois qu'il n'en existe pas beaucoup. Hein.
Ah non. Mais tu sais, c'est encore une fois. Hein. Moi, j'étais au conservatoire, j'ai entendu des choses, ce qui se dit, les profs, ce qui se disent. Je ne veux pas être vulgaire, hein, mais moi, j'ai entendu dire, en fait, tu ne feras jamais carrière parce qu'il te manque quelque chose entre les jambes. Et ça, ça se dit à des gamines de 17-18 ans dans les conservatoires. Fait que c'est très imprégné, en fait, qu'on n'est pas capable. Et ça, ça me tue. Je suis comme, mais on parle plus de force physique. On est dans des trucs, à part si... Et encore même à ça, tu peux avoir de l'aide. Mais ce que je veux dire, c'est que la créativité n'a pas de genre, en fait.
Eh ben, écoute, c'est un très beau mot de la fin.
Oui.
Moi, je pourrais en parler des heures de la place de la femme. Yeah. Ça me fait rire parce que ils ont annoncé les Légions d'honneur.
Ok.
Et tu sais, ils ont fait un article, une femme obtient la Légion d'honneur. Et tu sais, les comptes féministes, à chaque fois, ils font oh là là, une femme, elle est vraiment incroyable. Elle a plein de choses. C'est genre, une femme. Et vraiment, cette femme, mais on sait pas qui c'est, on sait pas son prénom, mais vraiment, elle a eu plein de choses dans sa vie. Hein.
Ouais, c'est comme si c'était pas possible.
Ouais.
Genre, comme si au bout de tant d'années, on est en 2024, genre, ça t'étonne encore. Hein.
Une femme.
Mais oui.
Elle a eu la Légion d'honneur. Non, mais Pauline, c'est pas possible.
Mais honnêtement, là, les trucs de l'histoire de l'art sans les hommes, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les femmes ont toujours créé de toute façon. Genre, ça faisait partie de ton éducation aussi. Pour être une bonne femme à marier, elles ont toujours fait de la musique. Alors, pourquoi il n'y a pas certaines là-dedans là, qui n'auraient pas fait carrière, tu vois. Mais il y en a. Mais c'est juste qu'ils ne te le disent pas. C'est mais triste.
Oui. C'est pas celle qu'on retient. Bah, merci beaucoup, Pauline.
Non, merci à toi.
Merci de t'être déplacée jusqu'à chez moi. J'étais très heureuse de te recevoir. Moi, j'admire depuis un bout de temps ton travail sur, malheureusement, qu'Instagram. Le jour où tu fais une exposition en France, je me déplace.
Ah, écoute, l'invitation est ouverte à qui?
Voilà.
Ouvrage dans ma vie.
S'il y a des galeries qui nous écoutent, voilà. Et puis, je te souhaite un bon stage à Londres, donc à partir de lundi.
Oui, c'est ça, ouais.
Et après, malheureusement, un bon retour à Montréal.
Merci. Dans le froid et la neige.
C'est ça. Merci, Pauline.
Merci, bye-bye.
Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce deuxième épisode avec Pauline Loctin vous aura plu. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire!